Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, Sabine et moi. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Allemands, mais nous venons du Beaujolais. Donc, on a appris que les Français aiment se définir par le vin, donc nous venons de la capitale du Beaujolais. Donc, de Villefranche-sur-Saône. Vraiment, c'est une joie d'être de retour ici. Nous aimons l'église Josué. Nous vous aimons. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est Pâques. Et le Seigneur m'a donné quelques pensées que j'aimerais partager avec vous. Parce que aujourd'hui, le Seigneur veut nous toucher à nouveau. Il veut faire quelque chose dans notre vie. Il veut faire revivre des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce que personne n'a pu imaginer, il est revenu à la vie. Ce qui ne s'est jamais fait auparavant, quelqu'un est revenu de la mort à la vie. Et ça, c'est un miracle, c'est incroyable. Ce que Jésus a fait sur la croix, et avec sa mort et avec sa résurrection, c'est le point tournant de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de toute la terre même. J'aimerais juste partager quelques aspects. En Matthieu 27, lorsque Jésus était sur la croix, il avait des souffrances extrêmes, il était dans l'agonie. Il a souffert à cause de toi, à cause de moi, à cause de nos péchés, à cause de nos maladies, à cause de la souffrance dans cette terre, sur cette terre. Il a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, afin que nous soyons libérés. Et certaines personnes, lorsqu'il a rendu l'âme, il a crié, et certaines personnes ont pensé qu'il a donné juste un cri faible avant de rendre l'âme. Mais c'était un cri de victoire. C'est en Matthieu 27, versets 50 à 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et on peut voir dans le verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire. Mais ce cri, lorsque Jésus a poussé un grand cri, dans le grec, il a dit « Terelesti ». Et le militaire qui était au pied de la croix, il savait ce que ça veut dire. C'était un cri de victoire pour lorsqu'il y a l'armée romaine qui avait combattu, et à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, donc lorsque il savait pas qui est en train de remporter, qui est en train de gagner, et lorsque le commandant a crié, le général a crié, Terelesti, la victoire est pour nous. Et là, ça donnait encore un coup de pouce à l'armée pour terminer le combat. Et c'est ce cri, donc Jésus n'a pas poussé un cri faiblement, c'est fini, j'ai tout accompli. Dans ce mot, terelesti, ça veut dire tout est accompli, la victoire est pour nous. Amen. Et ça c'est très fort. C'est pour toi et c'est pour moi. Jésus a remporté la victoire. Et comme un signe aussi, lorsque ça se passait, il y a le voile du temple qui s'est fendu. D'en haut, en bas, c'est un signe. Le ciel s'est connecté à nouveau avec la terre à cause du sacrifice de Jésus. Bienvenue Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être en famille aujourd'hui, d'être avec la grande famille Lehman. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous voir en tant que grande famille, de voir trois générations. Et c'est vraiment aussi... Oui, c'est touchant de voir. Il y a l'évangile qui passe d'une génération à l'autre. Et aujourd'hui, vous êtes en train de s'aimer pour la troisième génération. Et c'est merveilleux de voir ça. Vous êtes un exemple. Vous êtes un modèle, un témoignage. J'aimerais passer à un deuxième passage. Bon, j'aimerais revenir. On avait parlé du cri de victoire et on a parlé aussi que le voile, la séparation entre les hommes et Dieu, le voile s'est déchiré. Et à nouveau, il y a la connexion, c'est possible, la connexion entre le ciel et la terre. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont essayé de chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pas nous qui ont frayé le chemin, c'est lui qui a frayé le chemin pour nous. C'est lui qui est venu pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, il revient encore pour toi. Aujourd'hui encore, il veut te toucher encore à nouveau. Il veut faire revivre des choses dans ta vie que l'ennemi a gâtées. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En Jean 20, nous lisons à partir du verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. On va lire jusqu'au verset 8. C'est bon. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit des bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra ici aussi. Il vit et il crut. Alléluia. Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Les disciples sont entrés, ils ont regardé, mais où est Jésus? Il est parti. Ils ont vu encore les bandelettes. Et Pierre, il ne comprenait pas. Jésus avait bien parlé de sa mort. Et il y a beaucoup de choses, nous entendons l'évangile, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Jusqu'aujourd'hui. On lit la Bible, on lit le Nouveau Testament, on reçoit des prédications, mais pour que ça... Souvent, je dis, la distance la plus difficile sur cette terre, ce ne sont que 30 centimètres. C'est entre la tête et le cœur. On entend, mais pour qu'on comprenne, il faut qu'on le comprenne avec le cœur. Les disciples sont là, ils voient les bandelettes, mais ils ne voient plus le cadavre de Jésus. Et c'est finalement avec Jean. Jean était le premier, il voit et il croit. Quelques versets plus tard, à partir du verset 11 et 12, Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et là, tout récemment, nous étions ensemble à 7 avec pour formation de notre réseau. Et il y avait un enseignant, un apôtre enseignant de la parole de Dieu qui nous enseignait sur l'épître des Éphésiens, aux Éphésiens. Et puis, il a parlé aussi, il a parlé de la, symbolique de la Bible, le symbolique, qu'on dit symbolisme. Les symboliques hébreux, hébraïques. Il dit que la Bible, elle est pleine d'images, pleine de symboles, et on ne peut pas les comprendre avec notre raisonnement allemand, français, européen. Ça dépasse notre raisonnement. Et il a dit, même ce que Marie vit ici, ça c'est une image du lieu très saint. Les deux anges, ils s'étaient côte à côte, ils regardent, c'était comme les chérubins dans le lieu très saint, et au milieu il y avait les bandelettes avec le sang de Jésus, et ils ont adoré ce que Jésus a fait. Jésus a déposé son sang dans le lieu très saint, et à travers ça, il a racheté l'humanité, il a ouvert le chemin vers le ciel. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est pas seulement nous, il a réconcilié toute l'humanité, toute la création même. Ça aussi, c'était une révélation pour moi. Avant, je pensais toujours, l'évangile, c'est un évangile personnel. C'est pour toi et pour moi. Mais j'ai compris que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement les gens. Dieu va revenir, Jésus va revenir ici sur la terre et il va établir son règne, il va racheter toute la nature, toute la société. Tout récemment, j'étais au Sénégal et lorsque j'ai parlé là-dessus, ensemble, nous avons pensé, oh, le Seigneur, il va faire revivre le Sahel. Il y avait beaucoup de sable. On s'est enfoncé avec la voiture deux fois dans le sable. Il fallait pousser et tout avec une chaleur de 40 degrés, etc. Et on a dit, même le désert va fleurir à nouveau lorsque Jésus va revenir pour racheter, pour renouveler, pour lorsque le salut va pleinement se manifester, toute la terre sera rachetée, toute la création sera rachetée. Ça commence par toi et par moi. Ça commence par nous individuellement. Le salut de Jésus ne s'arrête pas seulement avec nous personnellement. Ça commence avec chacun personnellement. C'est un tête-à-tête avec le Seigneur. C'est là où ça commence. Mais après, ça veut aller partout. Le salut veut restaurer des familles, restaurer des relations, restaurer des entreprises, restaurer l'économie du pays, restaurer la vie sociale, veut restaurer toutes les nations. Cette semaine, on était invité, j'ai une famille avec trois enfants, et les enfants sont très vivants, un peu comme vos enfants. Donc, c'est une famille qui est intéressée à l'évangile, mais ils se sont pas encore engagés. Ça veut dire, ils posent des questions, etc. Et normalement, nous nous voyons avec le couple à part des enfants, parce que lorsqu'on est ensemble avec nos enfants, c'est difficile pour parler. Souvent, c'est les enfants qui parlent. Mais cette fois-ci, la dernière fois lorsque nous nous sommes vus avec ce couple, on a dit, mais lorsque vous parlez, lorsque vous avez des questions, notez les questions. Et la prochaine fois qu'on vient, vous sortez les questions et on va essayer de répondre à ces questions. Donc, comme c'est la semaine de Pâques, donc on est arrivé chez eux pour le dîner. À ma grande surprise, c'est les enfants qui ont noté les questions. Et les enfants sont de 5 à 11 ans. Ils ont sorti une feuille, ils ont Hachim, Sabine, nous on a des questions. Et des questions tellement concrètes. Pourquoi ils ont tué Jésus sur la croix? Est-ce que c'est vrai que Jésus est revenu à la vie? des questions très concrètes. Peut-être les parents n'allaient peut-être pas poser des questions aussi directes et claires. Et je vous assure, il y avait une atmosphère autour de la table. Il y avait le calme, il y avait l'attention, parce que c'est les enfants qui ont posé les questions. Donc, ils voulaient... Ils ont, et toi, ton histoire avec Jésus, quand est-ce que ça a commencé? Après, et pour toi, Sabine, pour toi, c'était le, c'est, comment ça s'est passé entre toi et Jésus? Oui, mais j'étais frappé. J'ai dit, oh, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans cette famille. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait le pas. C'est chacun a son rythme. Chacun, ça prend du temps jusqu'à ce que ça descend jusqu'au cœur. Je suis sûr que je l'ai dit une fois ici, mais avant, nous avons vécu au Sénégal pendant 9 ans en tant que famille, et à l'époque le rallye, le fameux rallye Dakar, donc on les a accueillis, les voitures de course, les motos de course, les camions de course, avec nos enfants étaient encore petits, nos 3 enfants, on est parti là pour les accueillir, et c'était un grand spectacle. Et on a toujours dit c'est le parcours le plus difficile du monde. Et moi-même j'étais en Mauritanie, et pour passer par les dunes et le sable, c'est vraiment un parcours difficile. Et ce n'est pas seulement le sable, il y a aussi les rochers. Mais le parcours le plus difficile de ce monde, ce ne sont que 30 cm entre ta tête et ton cœur. Et en principe, c'est la même chose, ça se reflète aussi dans une relation, dans l'amour avec toi et ton conjoint, entre père et fils, entre maman et fille, entre deux êtres humains. Ça ne suffit pas seulement d'aimer avec la tête. Il faut que ça rentre dans le cœur, que ça devienne un cœur à cœur, vrai ou faux. Et avec Jésus, c'est la même chose. Mais Jésus a ouvert le ciel. Le voile s'est déchiré. Et c'est disponible pour chacun de nous. Et aujourd'hui encore, c'est disponible. J'aimerais parler de cette connexion encore un peu plus. En Jean 17, versets 20 à 22, nous lisons, là Jésus prie, il prie pour nous, il est en prière avec son Père, c'était avant sa crucifixion, mais Jésus priait déjà pour le temps après. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et là, Jésus nous donne un exemple. Il nous donne un exemple de lui et son Père. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont notre exemple. Ils sont en parfaite union, en parfaite unité. Ils sont ensemble, ils sont d'accord. Ils ont différentes fonctions. Et il dit, la même manière que Jésus était un avec son Papa, de la même manière, il veut que toi et moi, que nous soyons un avec lui. Ça, c'est la première des choses. Après, je parle aussi entre l'unité entre nous, maintenant. Mais premièrement, ça commence toujours par notre réunion avec lui. Par notre unité, notre union avec lui. Il prie pour ça. Et il a, avec cette prière, il a déjà prié pour l'église Josué. Parce qu'il a dit, je prie aussi pour ceux qui vont croire à cause de leur parole. Il a prié pour ceux qui vont venir, qui vont encore croire, qui vont encore venir à la foi. Donc il a déjà prié pour nous. Pour que nous aussi, nous soyons un, réellement avec lui. Vous savez, il y a une différence de venir à l'église et d'être un avec Jésus. Il y a une différence entre s'appeler chrétien et peut-être même être baptisé, peut-être, oui, même peut-être servir Dieu, même être engagé dans une œuvre chrétienne, dans une église, mais toujours on a perdu la connexion. Aujourd'hui, le mot connexion, on ne le connaissait pas tellement il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît le mot connexion. Donc surtout lorsque tu es quelque part où il y a des trous, donc tu regardes. Une fois, j'étais au Mali, et il fallait, j'étais dans les villages au Mali, il fallait suspendre le téléphone portable dans un arbre pour capter le réseau. Donc c'était intéressant. Donc et il n'y avait pas de fruits dans l'arbre, il y avait des téléphones portables dans l'arbre. Donc c'était beau à voir. Et après, on les a cueillis et on a regardé, bon, on a reçu tel message, on a reçu tel message. Voilà, mais Dieu merci, aujourd'hui, on est un peu plus avancé ici en Alsace, donc on a le réseau un peu partout. Mais la grande question, c'est, est-ce que je suis bien connecté? Et c'est pas seulement bien connecté avec mon téléphone, mais connecté avec le Seigneur. Et ça, c'est... Jésus a prié pour ça, son désir que nous restions connectés avec lui, que l'évangile reste vivant pour nous, pour chaque jour, que ça soit pas quelque chose juste, voilà, bon, c'est une habitude, oui, en principe, je suis d'accord avec Jésus, oui, en principe, je suis chrétien, oui, en principe, le dimanche aussi, je vais à l'église, oui, en principe, oui, mais quand même... ça fait quand même 3 jours, ou bien 3 semaines, ou bien 3 mois où j'ai eu la dernière connexion avec le ciel. Le dernier tête-à-tête avec lui. Et le Seigneur nous invite. Aujourd'hui, il nous invite encore. Aujourd'hui, c'est le moment. Tu peux te reconnecter avec lui. Il t'invite. N'importe ce qui s'est passé, n'importe, parfois c'est le péché, parfois c'est la déception, parfois c'est même la dépression, parfois c'est des choses qui sont arrivées et tu ne comprends pas, c'est la grande confusion. Jésus a remporté la victoire, une fois pour toutes. Et aujourd'hui, il t'invite à revenir, à te reconnecter avec lui. Et c'est facile, tu peux le faire même ici, tu peux le faire à la maison. Après, il prie, Jésus, il prie premièrement pour la connexion, que nous soyons un avec lui, comme le Père et lui sont un. Après, il prie aussi pour que nous soyons un entre nous. Il y a une différence entre l'unité et l'union. Ça aussi, nous avons appris pendant cette formation à 7, la semaine surpassée, avec Joe Matera. C'était vraiment un enseignant apôtre excellent. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup parlé. Je suis toujours en train de digérer, de revoir ces choses, parce que ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs aspects que je ne voyais pas encore. Je marche avec le Seigneur depuis plus de 40 ans. je vous ai dit ça, je rencontrais Jésus sur un vélo en allant de l'Allemagne en Espagne, en train de pédaler en France. J'ai rencontré Jésus. J'étais dans la souffrance, je criais à Jésus, et le lendemain, toutes les douleurs étaient parties. Ça m'a tellement touché. Je ne venais pas d'un arrière-plan chrétien. Ça m'a tellement touché que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et sur le vélo, avant de traverser les Pyrénées. Donc on a fait encore 2000 kilomètres pour aller en Espagne, pour passer des vacances en Espagne. J'étais avec mon petit frère. On avait juste 16 ans et 17 ans à l'époque. Donc c'était au dernier siècle. Donc ça fait déjà un bon moment. Donc après les vacances, on a fait encore tout le chemin de retour jusqu'à Gießen, au nord de Francfort. Donc parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent, mais on avait la force. Donc, c'est comme ça qu'on passait nos vacances au sud, en Scandinavie, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus, ici en France, entre Montbéliard et Besançon. Donc, je me rappelle encore très bien. Donc, j'ai découvert Jésus en France. Donc, ça veut dire Jésus habite en France. Donc lorsque je dis ça aux Français, parfois ils disent d'accord, oui, c'est vrai, Jésus habite ailleurs aussi, mais réellement Jésus habite en France. Donc on peut aujourd'hui, on peut se connecter avec lui. Lui, il a ouvert la porte. Maintenant, si je veux te donner un cadeau, Jésus a fait comme s'il veut nous faire un cadeau. Donc, il a tout préparé. Il nous tend la main avec sa mort et sa résurrection. Il nous tend la main. Il dit, j'ai tout préparé, David. Tout. J'ai déjà payé pour tout. Je t'ai déjà racheté. Tiens. Tiens. Oui? Ah! Est-ce que tu comprends? Il faut que tu prennes. Il faut que le cadeau, il faut qu'on le reçoive. Il faut qu'on l'accepte. Sinon, ça ne devient pas ta propriété. Et aujourd'hui, peut-être tu as déjà accepté depuis plusieurs fois. Mais peut-être aujourd'hui, tu as encore besoin d'accepter ce que Jésus a fait pour toi, pour une certaine situation, une certaine souffrance, un certain problème dans ta vie. Jésus est là, mais il tend la main, il faut que toi, tu prends, tu acceptes. Alléluia. En psaume 133, verset 1 et verset 3, nous lisons « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. » Voilà, dans cette traduction, le mot « uni » n'est pas dedans. Mais dans la Bible Second, dans la version moderne de Bible de Second, c'est écrit de demeurer unis ensemble. Et à la fin de ce psaume, c'est écrit c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est comme l'huile précieuse. Oui, etc. Oui, c'est comme l'huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et là, j'aimerais parler de la connexion entre nous. Jésus nous a rachetés pour que nous puissions avoir la paix avec le Père, à nouveau, le pardon. La vie éternelle, mais il nous a rachetés aussi pour que nous soyons un aussi. Et de toutes les races, les Américains et les Allemands, Et les Allemands et les Français. Et les Français et les Alsaciens. Ah oui, hein? Oui. Je ne vais jamais oublier, il y a des années de cela, on était encore au Sénégal, on est revenu en Allemagne et on a cherché de la littérature chrétienne en français. Donc on est parti de Stuttgart à Strasbourg dans une librairie chrétienne pour chercher de la littérature pour le Sénégal. Et on a cherché un certain livre, un certain titre et la dame, elle nous dit, oh non, ça se trouve pas chez nous. C'est de l'autre côté en France. Vous devez chercher. On a dit, mais nous sommes en France ici. Donc ça fait déjà quelques années. La dame, elle avait aussi un certain âge. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'a parlé, ça m'a posé des questions. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux aussi l'histoire. Mais c'est ça ce que Jésus a fait. Il a créé la reconnexion entre tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, toutes les langues, à travers son miracle, son sacrifice sur la croix, sa mort et sa résurrection. Alléluia. J'aimerais juste dire que nous, en tant qu'Église aussi, parfois nous venons ensemble, mais il ne suffit pas de venir seulement ensemble, de venir au culte. Là où Jésus envoie sa bénédiction, c'est lorsque nous sommes unis ensemble. Il y a une différence entre d'être ensemble. C'est la même chose en tant que famille. Il y a des fêtes de famille, par exemple pour Pâques, parfois toute la famille se rassemble. Aujourd'hui aussi, la famille Lehmann se rassemble, n'est-ce pas? Et vous allez faire la fête, vous allez manger, et vous aurez la joie. Mais juste le fait que tout le monde vient ensemble, ça ne veut pas encore dire qu'on est réellement unis. Et je parle par expérience avec mes parents, lorsqu'ils étaient encore vivants, avec mes frères et sœurs. Il y avait une culture de famille et c'était important. C'est important de venir ensemble. Mais pour faire un pas encore plus loin, pour être réellement un, oh, là, c'est pas aussi facile. Mes frères et sœurs ne sont pas en Christ. Donc, déjà, là, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Donc, pour devenir réellement un, c'est un défi. Mais Jésus veut qu'on soit, autant qu'Église, autant que Église Josué, il veut que nous soyons réellement un. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes un, lorsqu'il a prié en Jean 17, c'est là où la gloire de Dieu est libéré. On a lu ça tout à l'heure. Ou bien en psaume 133, nous lisons, c'est là où il envoie sa bénédiction. Et il a dit aussi en Jean 17, il a dit, là où lorsqu'ils sont un, le monde va croire que tu m'as envoyé comme sauveur. Donc ça veut dire nous annonçons l'évangile à Villefranche-sur-Saône, dans notre entourage, dans notre voisinage, et c'est pas toujours facile. Lorsqu'on parle trop, par exemple, on a pour Noël, on a fait un barbecue de Noël avec des saucisses allemandes. Bon, il faut quand même pour nos voisins, il faut faire quelque chose de spécial, donc avec des saucisses allemandes et le vin chaud allemand. On a importé ça depuis l'Allemagne. Donc ils sont tous venus et on leur a dit, ah, il faut venir avec une tasse parce qu'on n'a pas suffisamment de tasses pour tout. Il y avait au moins une quinzaine de personnes. On n'a pas tant de tasses dans notre cuisine. Bon, ils sont venus avec la tasse, avec un petit cadeau et tout et tout et tout et tout. Et bien sûr, je parlais de l'histoire de Noël. Ah, mais les voisins d'un côté, c'était, oui, c'est intéressant, ils ont suivi et tout. C'est pas la première fois. Mais les voisins de l'autre côté, c'est déjà au moins la troisième fois quand on témoigne, etc. Depuis lors, encore, chaque fois qu'on en vient à côté, ils nous contournent pour ne pas nous saluer. Donc, ça les gêne. C'est pas toujours facile. Mais la Bible nous dit, c'est pas toujours facile. Je crois que Dieu travaille dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils réagissent aussi. Mais les uns sont comme ça, les autres sont comme ça. Et nous sémons la parole avec amour, avec persévérance. Mais la Bible dit, si Jésus dit, lorsque nous sommes un, lorsque le monde voit que nous sommes un, que nous sommes vraiment comme ça, bon, je parle en image parce que il y a 3 semaines j'étais au Sénégal, donc là-bas en Afrique on parle toujours en image. Et lorsque nous sommes comme ça, pas comme ça, mais comme ça, là les gens sont touchés. J'ai vu ça. Nous étions en Algérie pendant en famille en tant que missionnaire pendant 3-4 ans. Et là, par exemple, c'était un grand miracle lorsque des Kabyles et des Arabes étaient comme ça ensemble. Et c'était pas tout. Même lorsqu'ils se sont convertis, la méfiance, la haine qui était entre les deux races, c'était pas facile. Même entre les convertis, mais on a toujours vu lorsqu'ils ont été un, on a vu qu'ils ont réellement changé leur vie. Le caractère a été changé. Ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Un jour, il y a un de mes amis Kabyles, il a été arrêté par la police. Bon, dans la circulation, il y avait un contrôle. Et il parle en arabe aux policiers. Il dit, mais toi, tu es Kabyle, mais tu me parles en arabe. Ah oui, parce que j'aime l'arabe et j'aime... Quoi? Toi, Kabyle, tu aimes les arabes? Non, c'est pas possible. Mais juste parce qu'il... Après, il a... En Algérie, il faut faire doucement pour témoigner au public. Mais il a parlé, il a dit, c'est Dieu qui m'a changé. Il m'a donné l'amour et nous sommes ensemble aussi avec les arabes. Ah bon, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je crois que lorsque l'Église, lorsque nous vivons réellement en union ensemble, donc lorsque nous sommes vraiment un, d'un même cœur, d'une même âme, ce sera un témoignage très fort à l'extérieur. Ça va attirer les gens aussi. Jésus le dit dans sa parole. Cette semaine aussi, on était avec un autre couple, c'est un couple croyant, et on a partagé les nouvelles, et on a prié ensemble, et on a passé un bon moment ensemble. Mais lorsqu'on est rentré, après coup, j'ai dit à Sabine dans la voiture, j'ai dit, mais réellement, on a partagé, on a prié, en principe, on s'aime, mais on n'est pas un. J'ai vu que ce n'est pas donné. On n'est pas d'un même cœur et d'une même âme. Chacun un peu sur sa position. Bon, en Jésus, nous sommes un. En Jésus, nous sommes d'accord. On peut prier. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a rien. Mais chacun un peu son avis, son opinion, sa position. Et pour être d'un cœur et d'une âme, parfois, il faut un effort. Mais Jésus a prié pour ça. Et le Seigneur m'a mis cette parole à cœur aujourd'hui parce que je crois que le Seigneur veut conduire l'Église Josué sur un autre niveau. Il veut aussi, le Seigneur veut manifester, libérer sa gloire. Il veut libérer sa bénédiction davantage sur cette Église, aussi pour une croissance de l'Église. Une des conditions est que nous soyons de plus en plus comme ça. C'est sa prière. Et j'aimerais qu'on prie aujourd'hui pour ça. Nous sommes déjà ensemble. Et c'est bon que nous soyons ensemble. L'unité, il y a déjà l'unité qui est là. Mais l'union va encore un pas plus loin. L'union, souvent, ça se crée lorsque nous prions ensemble. Et là, j'aimerais arriver vers la fin. C'est bon? Oui. Donc, il n'y a pas l'enlèvement à midi ici. C'est midi 15 seulement, n'est-ce pas? Ok. Donc, nous voyons ça dans la première église. Je crois que le Seigneur nous encourage à regarder la première église comme modèle, aussi autant qu'église Josué. En acte 2, versets 1 à 4, nous voyons le premier jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et avant, on voit même qu'ils avaient des réunions en acte 1, verset 14, ils avaient des réunions, ils priaient tous des mêmes accords. Et oui, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et lorsqu'ils étaient tous ensemble en acte 2, il y avait un vent qui est venu, le vent du Saint-Esprit, avec des langues de feu. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient un, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et là, à cette époque, il y avait aussi beaucoup de peuples rassemblés. Il y avait des croyants de plusieurs peuples, plusieurs langues, etc. Et au milieu de la gloire de Dieu se manifeste. Parce que l'Église était un dans la prière. Nous voyons ça plus tard, en acte 4, nous voyons que lorsque Pierre et Jean, ils étaient devant les chefs religieux, ils ont été menacés, ils ont revenu, et tous d'un même accord. Acte 4, à partir de verset 23 jusqu'à 31, tous d'un même accord, ils ont prié, ils ont élevé leur voix, et lorsqu'ils ont terminé à prier, le lieu a tremblé. Ils étaient tous remplis à nouveau du Saint-Esprit. Et mon désir, je veux voir ça. Je veux voir la main de Dieu agir de cette manière. Donc, il y a 3 semaines, j'étais au Sénégal, 3-4 semaines, et dans un village, pendant la semaine, le soir. Donc, la journée, j'étais avec l'équipe. Le soir, ils ont invité les fidèles. Donc, c'était comme un culte pendant la semaine. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Et c'est un pays musulman. Et je parle sur le royaume de Dieu. Et l'interprète, c'était une jeune femme. C'était un peu lourd pour l'interprétation en serrère. Et il faisait 40 degrés à l'ombre. Donc, les yeux étaient lourds. Et je regardais l'heure, j'ai vu, bon, c'est presque 20 heures. Et 20 heures, c'est normalement le moment de repas. Et je dis, il faut que je termine maintenant. Après, il y a mon collègue, un jeune Allemand, et il ne parle pas français, mais c'était pour la première fois de faire l'Afrique. Il vient vers moi, il dit, Hachim, j'ai une image. Est-ce que tu penses qu'on peut partager ça? C'est quoi comme image? Il m'explique l'image. Tu me permets de partager l'image? C'était une image pour ce village. Une parole du Seigneur pour ce... Et après, avec mon collègue sénégalais, Victor, on a dit ensemble, maintenant, parce que le pasteur de l'église a dit, je veux que tu pries pour tous les... Vous priez pour tous les équipiers. Je dis, voilà, en équipe, on va prier maintenant pour vous. Dès qu'on a touché la première personne, il y a les gens qui sont tombés à gauche, à droite. Il y a des démons qui se sont manifestés. le jeune Allemand qui était avec moi, il n'a jamais vu ça. Il est assez nouvellement converti. Il aime beaucoup les enfants. Il a juste ramassé les enfants qui, pour les protéger. Et regardez, parce que les démons en Afrique se comportent un peu différent. Ici, ils sont plutôt cravatés, en France. Mais là-bas, ils sont vraiment violents. Donc, une femme, j'étais pas là, l'autre par là, l'autre. Et c'est violent. Et après, le jeune Allemand, il me pose la question, il dit, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dis, bon, je crois que parce que nous étions un, la gloire de Jésus a été libérée. Il a fait son œuvre avec les personnes qui ont été en souffrance. Ça s'est fait autrement, tant que dans chaque endroit, il y a ça. C'est différent, mais ah bon. Nous voyons cette même trame en acte 5. Nous voyons ça avec la première église. Lorsque l'église est un, vraiment un, c'est pas seulement d'être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Actuellement, on est en train de chauffer les chaises. Mais le Seigneur veut qu'on soit un peu plus que des chauffeurs de chaises seulement. Donc, que nous nous connections ensemble, de cœur en cœur, et toujours à nouveau. Et ce n'est pas une chose facile parce que, je te prends comme exemple, nous sommes différents, n'est-ce pas? Moi j'ai des cheveux ici, oui, et toi tu as des cheveux ici. Hein? Donc, Tu es plus grand que moi, tu as un autre arrière-plan, tu es américain, j'estime beaucoup les Américains, j'ai beaucoup appris avec les Américains, moi je suis allemand. Donc, mais Dieu veut que nous soyons ensemble, parce que pour toute l'éternité, nous serons ensemble. Imagine seulement. Tu dois me supporter pendant toute l'éternité. Et c'est difficile de me contourner dans le ciel. Donc, on n'a qu'à apprendre aujourd'hui à réellement se connecter. Et ça passe toujours, c'est toujours une double connexion. Ça commence par la connexion avec lui, ou bien la reconnexion avec lui, et après, la reconnexion aussi entre nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis arrivé vers la fin. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est bon. C'est ça ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui.